Vous écoutez, on lit pour vous.
L'attaque au Hilton, un sombre avertissement pour la sécurité du gouvernement Trump. Un texte de Michael Shirer et Ashley Parker, paru le 27 avril 2026 dans New York Post. D'abord, disons-le, le système a montré qu'il était opérationnel. Le périmètre de sécurité a tenu bon. Un assassin en puissance a été arrêté dans les couloirs de l'hôtel Hilton menant au dîner annuel de l'Association des correspondants à la Maison-Blanche. La seule balle ayant atteint un être humain, un agent du Secret Service, a été arrêté par le téléphone et le gilet pare-balles de l'officier en question. La scène a bien vite été envahie par une équipe d'intervention armée de fusils d'assaut et de lunettes à vision nocturne si jamais les lumières venaient à être coupées. Quelques minutes ont suffi pour que soient mis en sécurité les plus hauts responsables de l'État américain, président, vice-président, membre du gouvernement, président de la Chambre des représentants. L'attaque n'a fait aucune victime. Mais le grand soupir général de soulagement et les avalanches de « je vais bien » envoyées par texto ne disent pas tout. Cette attaque a ceci de différent des deux précédentes tentatives d'assassinat contre Donald Trump que le président n'était pas la seule cible. Dans son manifeste que s'est procuré le New York Post, l'assaillant présumé déclare avoir visé les responsables du gouvernement. Ce sont des cibles et leur priorité va du plus haut placé au subalterne. Et pendant que retombait l'adrénaline, dans l'entourage de Trump, cette réalité a fait son chemin dans les esprits. Si les choses avaient tourné différemment, les plus hauts responsables des États-Unis auraient couru un véritable danger. Les officiers de protection rapprochés ont pour mission la mise à l'abri par tous les moyens. Si un cortège présidentiel est pris pour cible, les plans d'urgence prévoient qu'ils soient scindés et laissent de côté les personnels de second rang et les journalistes accrédités. La priorité est claire, mettre le président en sécurité. Quand des tirs ont retenti dans l'hôtel Hilton de Washington, les équipes de protection se sont précipitées dans les salles de réception pour retrouver chacune son ou ses protégés et les évacuer, abandonnant parfois leur sort conjoint, collègues et autres menufretins. Le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., a ainsi été pris en charge par trois officiers faisant rempart de leur corps alors qu'ils s'éloignaient de la salle. Son épouse, Cheryl Hines, a dû suivre par ses propres moyens quelques mètres derrière et enjamber tant bien que mal les barrières en robe de bal. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui n'était pas à sa table quand les tirs ont commencé, a dû envoyer des agents armés chercher son épouse. Pour les autres membres du gouvernement Trump et de son entourage ne disposant pas de protection rapprochée, rien de particulier n'a été mis en place. Ils n'ont pu que s'en remettre à eux-mêmes. Il y a manifestement un nouveau distinguo chez les élites au sommet de l'État. Il y a ceux qui ont été promptement évacués par le Secret Service et les autres, a résumé sur les réseaux sociaux l'ancien PDG de Goldman Sachs, Lloyd Blankenfein, présent au dîner de gala. Cette situation n'est pas nouvelle. Les responsables de premier plan subissent régulièrement ce genre de tentative d'attaque. Trump a été ciblé à deux reprises pendant la campagne présidentielle de 2024 et a échappé de peu à la mort lorsqu'on lui a tiré dessus au cours du meeting de Butler en Pennsylvanie. Quelques mois plus tard, le président de la compagnie d'assurance santé privée United Healthcare, Brian Thompson, était assassiné en plein jour dans une rue de Manhattan, un crime célébré par certaines sphères d'Internet. En avril, la résidence du patron d'OpenAI, Sam Altman, a été attaquée par un homme persuadé que l'IA est en train de causer l'extinction imminente de l'humanité. Enfin, l'année dernière, le militant conservateur Charlie Kirk, un proche de Donald Trump et de ses conseillers, a été tué par arme à feu lors d'un événement politique. Sa veuve, Erica Kirk, était présente au dîner de Washington. Elle a été escortée vers la sortie, visiblement affolée, dans sa robe à sequins couleur crème. « Je veux juste rentrer chez moi », sanglotait-elle. Le porte-parole de la Maison-Blanche, David Single, a déclaré que le président était reconnaissant envers les courageux hommes et femmes de la police qui ont réagi rapidement pour neutraliser au plus vite le criminel et assurer la sécurité des membres de l'assistance. Certains membres éminents du gouvernement ont reçu une protection supplémentaire. Comme nous l'avions déjà révélé en octobre, le conseiller à la sécurité interne, Stephen Miller, a été installé dans une base militaire depuis que des manifestants se sont approchés de son domicile en Virginie du Nord. D'autres ministres, comme le secrétaire d'État Marco Rubio et le ministre de la Défense Pete Hegseth, ont aussi été déménagés sur des sites militaires et au moins un autre membre du gouvernement les a suivis en raison d'une menace étrangère. La question est désormais de savoir ce qui doit changer. Certains critiquent déjà la décision d'avoir rassemblé autant de membres du gouvernement dans une seule pièce. Pendant le premier mandat de Trump, le vice-président Mike Pence n'empruntait même pas l'ascenseur avec le président, soucieux de sa responsabilité en tant que vice-président en cas de problème. Mais, lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, le président était accompagné des deux personnalités suivantes en ligne de succession, J.D. Vance et Mike Johnson, le président de la Chambre des représentants. Si une catastrophe s'était produite, le contrôle des codes nucléaires des États-Unis aurait incombé à Chuck Grassley, le président à vie du Sénat, âgé de 92 ans. Si un engin explosif s'était enclenché, il aurait neutralisé le président, le vice-président et le président de la Chambre des représentants, les trois premières figures de l'État, a souligné le député républicain Michael McCaul. Je pense que le Secret Service doit éviter d'avoir le président et le vice-président au même endroit. Le soir du dîner, avant même que des détonations ne retentissent, certains avaient fait preuve d'humour noir au sujet de l'immense salle de bal. Des responsables s'étaient en effet étonnés de voir J.D. Vance s'installer aux côtés de Trump sur l'estrade, sans parler des nombreux membres du gouvernement dispersés sur une centaine de tables et, en référence à la ligne de succession, ils avaient lancé malicieusement qu'ils espéraient ne pas finir la soirée avec Chuck Grassley comme président. Ces émules de Luigi Mangione qui s'en prennent au patron de l'IA, mais que vient faire Trump au dîner des correspondants de la Maison-Blanche? Ces figures MAGA qui s'excusent d'avoir soutenu Donald Trump. L'anticipation est l'un des points forts de The Atlantic depuis sa création en 1857. Cette vénérable revue littéraire et politique, où écrivent les plumes les plus prestigieuses du moment, a su faire de son site un très dynamique lieu de réflexion et de débat. Elle a franchi en 2024 la barre symbolique du million d'abonnés à ses versions numériques et papier. Fondée par un groupe d'écrivains à Boston, quelques années avant la guerre de sécession, le magazine s'est donné pour mission de n'être l'organe d'aucun parti, mais le porte-parole de l'idée américaine. La publication des premiers textes de Mark Twain, des reportages de guerre de Nathaniel Hawthorne et de la lettre de la prison de Birmingham, vibrante défense de la non-violence, 1963, de Martin Luther King, ne dément pas cet idéal. Si la revue n'a que rarement soutenu un candidat à la présidence, elle a pris trois fois parti contre Donald Trump, dénonçant le danger qu'il représente. The Atlantic a même fini par devenir une sorte de bête noire du président républicain, tout comme l'actuel directeur de la rédaction, Jeffrey Goldberg. Ce dernier a pourtant été inclus par erreur dans une boucle Signal où des plans de guerre ont été échangés, se voyant ainsi offrir un énorme scoop. C'était l'attaque au Hilton, un sombre avertissement pour la sécurité du gouvernement Trump, un texte de Michael Scherer et Ashley Parker, paru le 27 avril 2026 dans New York Post.
La mobilisation du mouvement Le Communautaire à bout se sentait lundi au local des artisans de la paix à Trois-Rivières, où l'on préparait les pancartes en vue de la grande manifestation du 2 avril. Stéphane Lessard, Le Nouvelliste. Le passage des trois porte-paroles du mouvement Le Communautaire à bout, dimanche soir à Tout le monde en parle, a été passablement remarqué. S'il restait encore quelques personnes à convaincre que le mouvement allait être sans précédent pour le milieu communautaire, ça s'est probablement réglé après cette entrevue, devenue pratiquement virale sur les réseaux sociaux. Durant ces deux semaines, on verra des actions se multiplier un peu partout dans la province pour assurer la visibilité du mouvement. Mais surtout, on comprendra aussi l'impact des actions quotidiennes du milieu communautaire dans la vie de près de 3 millions de Québécois. Plusieurs actions du milieu communautaire seront visibles au cours des deux semaines de grève. Des personnes seront privées de divers services durant ces deux semaines, de la popote roulante aux visites à domicile, à l'aide alimentaire, au transport vers des rendez-vous médicaux, aux maisons de jeunes, à l'accompagnement des nouvelles familles, à l'accueil aux nouveaux arrivants, à la lutte contre les agressions à caractère sexuel. Parce qu'au-delà de parler d'argent, on parle d'abord de services rendus à des êtres humains. On parle d'un filet social qui se bat actuellement pour sa survie. Lundi matin, aux premières heures du déclenchement de cette grève, la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, Chantal Rouleau, a eu elle-même du mal à chiffrer certains engagements de son gouvernement en matière d'action communautaire, ce qui a fait vivement réagir le milieu. On aurait pu s'attendre, au premier jour de cette grève, que la ministre responsable du dossier connaisse sur le bout de ses doigts les montants qui sont alloués aux communautaires. Or, en entrevue avec Marie-Claude Julien à l'émission « Toujours le matin » sur les ondes de Radio-Canada Mauricie, elle n'en a pas fait la démonstration claire. Questionnée sur les montants qui avaient été accordés pour cette année seulement, elle a rappelé que son gouvernement avait octroyé 781 millions de dollars de plus au milieu communautaire. Or, ces montants sont plutôt sur plusieurs années et ciblent seulement certains secteurs. L'animatrice est revenue à la charge pour connaître les montants pour cette année pour l'ensemble du réseau. Silence. Puis, une promesse de lui revenir par écrit, plus tard, avec la réponse. À l'ouverture d'une grève provinciale où l'argent sera au cœur de toutes les revendications, c'était, disons, surprenant. J'ai sollicité une entrevue avec la ministre lundi. Elle s'est d'abord rendue disponible, mais l'entrevue a par la suite été annulée en raison d'une urgence. Elle nous a plutôt transmis une déclaration écrite que je vous recopie ici. Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Le milieu communautaire, c'est au cœur de qui nous sommes comme société. Je suis sur le terrain, je rencontre les organismes, j'entends leurs préoccupations et je suis pleinement engagée à leur côté. Notre gouvernement est en train de faire un vrai rattrapage après des années où ils ont été laissés de côté par les anciens gouvernements. On a augmenté de façon importante le financement à la mission, donc moins de bureaucratie et plus de souplesse pour les organismes, en plus de doubler le financement global et de poser des gestes concrets pour mieux les soutenir. Et ce travail se poursuit. On a inscrit des sommes importantes en soutien au milieu dans le nouveau budget. J'invite les groupes à travailler avec moi pour qu'on prépare ensemble cette année le prochain plan d'action gouvernemental en action communautaire. Pour le mouvement, le communautaire à bout, on espère désormais un changement de leadership au ministère. On souhaite aussi la convocation d'urgence d'une table de négociation avec celui ou celle qui sera, sous peu, nommé à la tête du gouvernement le 12 avril prochain. La ministre a fait la démonstration, lors de ses entrevues dans les médias lundi matin, qu'elle ne maîtrise pas ces chiffres. Elle nomme les millions qui sont investis, mais n'explique pas comment ça se traduit sur le terrain. Ces montants, ils sont minimes, s'insurge Mathieu Gélina, porte-parole du communautaire à Bout et directeur général du Centre d'action bénévole Le Trait d'Union de Shawinigan. Des 20 millions de dollars supplémentaires annoncés lors du budget, les plus chanceux recevront environ 6 000 $. Certains autres, comme les maisons des familles, n'auront rien de ces nouveaux montants, explique Mathieu Gélina. Le cabinet de la ministre a rétorqué, toujours par écrit, que des sommes importantes appuient le milieu, dont 264 millions de dollars en itinérance et en santé mentale, 260 millions de dollars pour lutter contre les violences conjugales et sexuelles, ainsi que 257 millions de dollars pour renforcer les services aux personnes vulnérables, pour le fameux total de 781 millions de dollars. De ces postes budgétaires, 157,6 millions servent spécifiquement au renforcement du soutien financier aux organismes, ajoute son cabinet. Sur un an, allez savoir, on nous indique, pour ce 157,6 millions, que les postes budgétaires varient sur un an, deux ans et cinq ans. Une guerre de chiffres, fait remarquer Mathieu Gélina, qui déplore que le public s'y perde dans tout ça, pendant qu'une grande partie des organismes ne recevront que des miettes. Il rappelle que, dans un monde idéal, pour combler le rattrapage du manque accumulé, il faudrait des investissements supplémentaires de 2,6 milliards de dollars partout au Québec. Mathieu Gélina est directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union et co-porte-parole du mouvement Le communautaire à Bout. Ce que le gouvernement n'avait pas prévu, c'est l'ampleur de la mobilisation. C'est partout au Québec et je pense qu'ils ont sous-estimé la colère du milieu communautaire. Mathieu Gélina. Il est vrai de dire qu'en mettant en place le plan d'action gouvernemental québécois sur l'action communautaire 2022-2027, le gouvernement de la CAQ est allé là où les précédents gouvernements n'étaient pas encore allés auparavant, en injectant 2,2 milliards de dollars sur cinq ans dans le réseau. Mais malheureusement, ce qui est sur la table n'est pas encore suffisant pour combler le retard, pour empêcher qu'on se retrouve avec des travailleuses et travailleurs du communautaire qui flirtent pratiquement avec le salaire minimum, alors que leur expertise mériterait davantage. Ce n'est pas non plus suffisant pour empêcher que certains d'entre eux deviennent eux-mêmes bénéficiaires du communautaire en ayant recours aux banques alimentaires pour joindre les deux bouts. Ce n'est pas suffisant pour éviter l'épuisement et l'exode vers le secteur public, lui qui se retrouverait bien mal pris si de bon nombre de bénéficiaires n'étaient pas pris en charge par le milieu communautaire. Et les réponses gouvernementales fournies lundi par la voix de la ministre n'ont rien, pour le moment, pour rebâtir des ponts au-dessus de cet immense fossé qui continue de se creuser. Sa réaction, elle ne va qu'enflammer davantage le réseau. Les citoyens et les alliés se rendent de plus en plus compte de ce qu'on risque si le communautaire n'est plus en mesure d'assurer sa mission, conclut Mathieu Gélina. C'était « Grève du communautaire », un fossé creusé à coups de chiffres. Un texte de Paul Vermeau-Desroches paru le 7 avril 2026 dans Le Droit et Le Nouvelliste.
La guerre du futur fait rage maintenant du journal La Presse. Texte signé Alexandre Sirois et publié dans l'édition du 22 mars 2026 de ce journal. L'utilisation de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille fait dire à Michael C. Horowitz, qui a travaillé sur les questions d'armes liées à l'intelligence artificielle au département américain de la Défense sous l'administration de Joe Biden, que, citation, « le futur de la guerre, c'est maintenant ». Fin de citation. C'est ce qu'il a affirmé dans un rapport publié le mois dernier par le Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale intitulé « Artificial Intelligence, the Future of War and International Politics », en français, l'intelligence artificielle, le futur de la guerre et la politique internationale. Citation. Ce que cela signifie, selon moi, c'est que les pays du monde entier, et tout particulièrement les États-Unis et la Chine, mais pas seulement eux, investissent de plus en plus dans le déploiement de systèmes utilisant l'intelligence artificielle pour gérer des éléments du champ de bataille, explique-t-il en entrevue, fin de citation. En revanche, pour l'instant, le futur est différent de ce qu'on prédisait il y a quelques années lorsqu'on discutait des craintes liées à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. On faisait alors référence, par-dessus tout, à l'apparition de robots tueurs sur le champ de bataille, soit ce que les militaires et les universitaires appellent, citation, « des armes létales autonomes ». Michael C. Horowitz, qui est aujourd'hui professeur au département de sciences politiques de l'Université de Pennsylvanie, explique que l'IA est actuellement utilisée de trois façons par les forces armées. Premièrement, pour faciliter le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. Citation. Cela va des données satellites aux données de capteurs en passant par les données de sources humaines ou des informations publiquement disponibles. On agrège toutes ces informations pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le monde à un niveau stratégique. Fin de citation. Deuxièmement, pour faciliter la prise de décision, comme on l'expliquait précédemment, un rôle que cet expert compare à celui d'un assistant juridique qui aide un avocat à faire des recherches, des analyses et à préparer un dossier, et parallèlement, au sein de systèmes d'armement, qu'on qualifiera donc d'autonome. Lorsqu'on lui demande ce qu'il juge de plus problématique quant à l'usage militaire de l'intelligence artificielle en ce moment, il dit lui aussi s'inquiéter des conséquences du biais d'automatisation. Citation, dans le monde civil, c'est ce qui peut rendre les écrasements d'avions commerciaux plus probables parce que les pilotes disent « Oh, le pilotage automatique dit que tout va bien ». Dans un contexte militaire, c'est un risque très clair, dit-il, fin de citation. Il estime cependant, pour sa part, que les effets pervers de ce biais n'ont pas été clairement démontrés lors de l'utilisation de l'IA pendant la guerre à Gaza. Il juge que c'est probablement davantage, citation, « les standards qu'Israël était prêt à accepter pour l'usage de la force », fin de citation, qui doivent être mis en cause. À ses yeux, ce sont encore des décisions humaines qui expliquent l'ampleur de la destruction là-bas. L'un des problèmes qui nous empêche de déterminer hors de tout doute ce qui s'est véritablement passé sur le champ de bataille est, bien sûr, le secret qui entoure les opérations militaires. Mais l'opacité des systèmes d'intelligence artificielle est aussi un obstacle de taille. Citation. À mesure que les systèmes d'intelligence artificielle gagnent en complexité et perdent en transparence, il devient plus difficile de reconstituer la manière dont certaines décisions de ciblage ont été prises ou de comprendre pleinement le comportement du système à l'avance. Fin de citation. Jessica Dorsey. Citation. Nous constatons déjà que les États-Unis ne savent pas comment trouver quelle frappe ont pu être menées avec l'aide de l'IA, fin de citation, poursuit Jessica Dorsey. Ce fut flagrant dans le cas du bombardement américain d'une école primaire de la ville de Minab, en Iran, le 28 février dernier, qui a tué plus de 175 personnes, en majorité des enfants. Une enquête a rapidement été ouverte. Dans la foulée de la publication des résultats préliminaires à la mi-mars, ses responsables, cités par le New York Times, ont dit qu'il est, citation, « peu probable », fin de citation, que l'IA soit à la source de l'erreur. C'est à suivre. Citation, « c'est pourquoi une intelligence artificielle fiable, prévisible et explicable n'est pas seulement une exigence éthique ou légale, mais aussi une nécessité opérationnelle. Les commandants ont besoin d'avoir confiance dans les outils qu'ils déploient afin d'exercer un jugement adéquat et de répondre de leurs gestes quant aux résultats. » Fin de citation, ajoute Jessica Dorsey, qui est aussi membre experte de la Commission mondiale sur l'IA responsable dans le domaine militaire. Car la notion de responsabilité sur le plan juridique ne disparaîtra pas soudainement parce que l'intelligence artificielle est utilisée en temps de guerre. Fin de ce texte titré « Au-delà des robots tueurs, la guerre du futur fait rage maintenant » du journal La Presse, texte signé Alexandre Sirois et publié dans l'édition du 22 mars 2026 de ce journal.
La prolifération des castors inquiète le Nord canadien. Ils sont partout. Un texte de Martin Gauthier paru dans le Globe and Mail. Alors qu'il se trouvait sous le soleil de minuit, dans un campement autochtone du Yukon, dans le nord-ouest du Canada, Kevin Airy raconte au Globe and Mail avoir été abasourdi lorsqu'il a aperçu, en juillet 2024, un castor nageant dans la mer de Beaufort. C'est la première fois qu'il voyait ce mammifère semi-aquatique d'eau douce dans l'océan Arctique. « Maintenant, poursuit cet Inuit qui surveille les cours d'eau près de Tuktoyaktuk, dans le nord des territoires du Nord-Ouest, ils sont partout, dans chaque pouce carré du delta, du fleuve canadien Mackenzie. Mais pas seulement là. Le Fonds mondial pour la nature, WWF, rapporte ainsi avoir cartographié plus de 12 000 étangs de castors dans la toundra arctique du nord et de l'ouest de l'Alaska aux États-Unis. Leur présence dans la région est documentée depuis les années 1950 et s'est fortement accrue depuis, précise le quotidien. Ces régions était autrefois plutôt inhospitalière pour ces rongeurs emblématiques du Canada. Mais, explique le média torontois, le réchauffement de la toundra a facilité l'enracinement des arbustes et des petits arbres. Cela a créé un nouvel habitat pour les castors, dont les étangs transforment encore davantage le terrain. Pour les peuples autochtones, l'hirondelle ne fait plus le printemps. Sursis au Canada pour des dizaines de bélugas menacés d'euthanasie. Il y a 100 millions d'années, des pieuvres géantes régnaient sur les océans. C'était « La prolifération des castors inquiète le Nord canadien. Ils sont partout », un texte de Martin Gauthier paru dans le Globe and Mail.